FM 93. La chronique sport. Les sports avec Levez.
Alors, mon ami Vez, on se rapproche du jour fatidique, c'est-à-dire demain.
Demain soir.
On est la veille de demain soir.
Le moment où Carey Price va quitter le Canadien.
Probable. Je suis déchiré, Vez.
On devrait faire un petit pool.
Je suis démoli,
un
Vez.
Pool? OK. Oui.
Mais je ne saurais pas prendre position.
Non?
C'est parce que, je vous disais avant la pause, mais on va le dire tout de suite, là. J'ai deux théories qui s'opposent, mais qui s'équivalent. Dans le sens où il n'y en a pas une qui est plus plausible que l'autre. Premièrement, je vois pas pourquoi le Kraken ne repêcherait pas Carey Price.
Moi non plus.
Oui, exact.
Malgré son gros contrat.
Puis malgré le deux mois, peut-être, où il sera pas disponible au début de la prochaine saison.
Pas grave, ça.
Tu sais, s'il est là 5 ans encore, là.
C'est ça. C'est le visage de la franchise, on va vendre des t-shirts, va être payant. Je vois pas, donc c'est ça la théorie 1. Je vois pas pourquoi il ne repêcherait pas. Et l'autre théorie, c'est je vois pas comment Bergevin aurait pu prendre un aussi gros gamble avec son joueur de concession. Je vois pas comment Bergevin aurait pu choisir, finalement, de juste se dire « Ah, mais ils le prendront pas. » C'est... Ça fait pas de sens, là.
Ben, le gamble, il est peut-être du fait que le plafond salarial est très bas encore cette année. Enfin, très bas, c'est relatif, là, on s'entend. Je pense que c'est 81 millions.
Oui, oui, oui.
Carey Price fait plus qu'un dixième de la masse salariale permise. Puis, il y a un gardien numéro 2 qui peut être un numéro 1. Et si tu laisses aller Carey Price et son contrat, ça va te permettre peut-être d'aller chercher un gros, gros, gros attaquant que tu n'as pas encore. Dans le sens, un scoreur, un gars qui est ce qu'on appelle en bon français un game changer, un gars qui est capable de marquer un but important n'importe quand, dans n'importe quel match. Tu sais, un genre de Steven Stamkos avant cette année, là, parce que c'était assez
Jack Eichel, mettons.
Mais, oui, exact, Jack Eichel ou Tarasenko, ou tu sais, il y en a qui sont disponibles.
Ouais, mais en tout cas.
Puis
Bergevin n'est pas si cave que ça. Il a bien vu que quand Carey Price gaulait pas sa tête, son équipe n'était pas si bonne que ça. Là, en série, là, c'est, si le Canadien gagne la Coupe Stanley, le Conn Smythe, on s'entend que c'est Carey Price. Ouais. Personne ne réfléchit. Là.
Mais son équipe est peut-être pas si bonne que ça parce qu'il n'y a pas de Tarasenko ou de Jack Eichel.
Je comprends.
Parce que tu as 10 millions qui est utilisé pour un gardien.
Puis 10 millions pour un gardien à qui tu demandes de jouer 55 matchs parce que tu veux pas le brûler durant la saison, parce que tu veux l'avoir dans les séries, ça fait cher du match en tabarouette durant la saison régulière. Là.
Ouais, mais en faisant ça, il t'amène en finale de la Coupe Stanley.
Puis tu as la chance d'avoir Jake Allen qui peut bien la faire, la job numéro 1. On l'a vu encore cette année.
Je te rapporte à... juste avant que les séries commencent, là. En onde, j'ai dit il faut que ce soit Jake Allen qui commence la série.
Ah oui, je m'étais
fourré avec un peu.
Non, mais il aurait peut-être fait la même job.
Ben, on était d'accord, pas. Le pire, à ce moment-là, ben là, oui. Quand on avait parlé la fin de semaine. Mais c'est parce que pour ce qui est du gamble price de Bergevin, c'est impossible que ce soit pas un gamble. Parce que tu peux pas avoir d'entente avec Seattle. Là. Et s'il y avait eu une entente, ça aurait été avec Allen, pas sur Price. Ça te coûte 8 fois plus cher concernant Price que Allen.
Parce qu'apparemment
mais tu prends le gamble qu'ils ne prendront pas à cause du salaire.
À cause du salaire, ouais. Mais parce ça reste un gamble.
Ce qu'on raconte, c'est que Bergevin a protégé Jake Allen parce que Seattle s'apprêtait à le repêcher, apparemment, d'après ce qu'il aurait eu su.
Oui, oui, oui.
Puis Seattle demandait un choix de première ronde puis un choix de troisième ronde en échange de ne pas le réclamer.
Ce
qui est trop élevé. Alors, il a décidé de protéger Jake Allen puis prendre le pari qu'ils ne repêcheront pas Price. Mais Seattle, je le prendrais Price. Parce qu'il faut aussi que le Kraken, qui va repêcher des joueurs pour la plupart, des joueurs qui font pas des gros, gros, gros salaires, le Kraken doit repêcher 30 joueurs qui font un salaire total d'au moins 60% du plafond salarial.
Hier, j'ai fait l'exercice.
Tu penses qu'il pourrait ne pas avoir le minimum?
Ben, ça pourrait être serré s'il repêche pas Price.
Oh, tu penses?
Ben, hier, j'ai fait l'exercice là, pour le fun là, avec Cap Friendly. Là.
Oui, parce qu'en plus, Alexis, sachant qu'Alexis refait les trios de chaque équipe à tous les jours sur une feuille à la main, est-ce qu'on est surpris qu'il ait fait l'exercice?
Pas
non,
du
mais
tout.
Parfait, on va en profiter.
Regarde, j'ai été capable de sélectionner dans mon équipe Price, Subban, Giordano, Van Rimsdyk à 7 millions, Tarasenko et Gourde. J'ai aussi Domi et Nino Niederreiter. Puis mon,
ni de Reiter.
Mais ça rentre tout dans le cap salarial. J'arrivais sur les 30 joueurs au complet, j'arrivais à 2 millions au-dessus de la masse. Mais 2 millions, c'est parce que j'avais beaucoup trop de joueurs. Tu comprends? T'as 30 joueurs, là. C'est pas tout le monde qui aurait été, tu sais, avec...
L'équipe, c'est 23, je pense.
Ouais, c'est ça, normalement. Fait qu'enlève-en 7, t'arrives largement en dessous du plafond, là.
Mais les joueurs, pour calculer la masse salariale, on tombe peut-être dans la technicalité, mais ta masse salariale est calculée sur tes 23 joueurs habillés?
Oui.
Pendant la pandémie, c'était ça, mais hors pandémie, c'est tout ça?
Oui.
OK.
Fait que même mais c'est qu'un nombre.
Il y avait eu un mock draft, là, une simulation de repêchage, là, avec, je pense que c'est justement Cap Friendly qui a fait ça. Price puis Driger, le gardien de la Floride, ouais,
qui serait repêché. Qui ont signé, là, Driger.
Ouais. Tu sais, en défense, tu aurais, par exemple, Mark Giordano de Calgary, qui est un très bon défenseur. Ben oui. À part de ça, t'as, dans les défenses, Josh Brown d'Ottawa. André Sequeira de Dallas. En attaque, ils vont chercher Tarasenko, Van Rimsdijk à Philadelphie, Domi, Andreas Johnson, Brandon Lemieux, qui est un allumeur.
Qui est à Tampa? Parce que Tampa, t'as du bon
monde. Goodrow s'en va à...
Ouais, sinon, il y a Kellorn, Palat, qui sont disponibles aussi. C'est que à Tampa, là...
Tampa, c'est Cal Foot qui repêche. Attends, tu peux...
Il me semble que j'aurais pris Yannigo, moi.
Go, Yanni, go!
Ah non, c'est pas Tampa, ça, c'est, je pense que c'est Buffalo. Attends un petit peu, parce que l'impression n'est pas très bonne, là, puis ils ont mis juste les petits logos.
Mais de toute façon, ce qu'on comprend, Vez, ultimement, c'est que l'important, c'est que ça peut... Il devrait pas être beaucoup au-dessus, là. Fait que le bout du cap salarial, c'est même plus un argument, dans le fond, dans le cas de Carey Price.
C'est un enjeu comme n'importe quelle autre équipe, sauf que pour le Canadien, c'est...
Mais Carey Price, son contrat, il reste 5 ans, là.
Oui.
Fait que pour eux, là, pour le Canadien, 5 ans, c'est long.
Oui.
Mais pour Seattle, c'est pas si long.
Non.
C'est une nouvelle équipe. Ils ont beaucoup de vieux joueurs qui gagnent des bons salaires, mais qui vont prendre leur retraite éventuellement. Tu sais, Mark Giordano, il a encore de bonnes années, mais c'est pas un joueur pour les 10-12 prochaines années. C'est un joueur pour les 3 prochaines années.
Mais t'en as besoin de joueurs comme ça si tu veux avoir du succès un peu au départ, là.
Mais s'il reste, mettons, 3-4 ans de contrat à plusieurs de ces joueurs-là, ben, tu repêches des gars avec des gros salaires. Dans 3-4 ans, le contrat est fini. Tu peux donner des meilleurs salaires à des plus jeunes, mais c'est pas un problème. Au contraire, ça va leur en prendre. C'est ce que je tire comme conclusion de ce que tu dis. Fait que ça veut dire que c'est quasiment alléchant, finalement, d'aller chercher un gars comme Price, parce que son salaire, c'est plus grave. Là. On s'en fout de son salaire. Son salaire, c'est bonus, là.
Oh ouais, pis,
on s'en fout complètement.
Quand même qu'il ferait 13 millions cette année, comme Alexis disait hier, ils ont payé 650 millions pour l'équipe, puis un autre quasiment 1 milliard pour l'aréna.
C'est ça.
13 millions de plus, là, ça doit pas les énerver ben, si c'est pour en faire beaucoup plus en revenus aussi, là.
Ouais, c'est ça.
Si tu gagnes, tu mets plus de monde dans l'aréna, tu vends plus de t-shirts, de casquettes, de chandails. D'après
moi, là, le nombre le salaire, là, de Price, là, tu le rentabilises en combien d'heures de vente de t-shirts?
Deux heures.
Demi-journée, genre, tu sais.
Ouais,
le nombre de t-shirts Kraken Seattle, 31 Price dans le dos, là, ça va être la folie furieuse.
Mais après ça, ça va être de voir aussi les transactions qui vont pouvoir venir après le repêchage. Les portes sont ouvertes parce que là, tu as une idée de quel joueur, quelle équipe tient à quel joueur. Puis après ça, il y a des coups de téléphone qui peuvent se dire « Hey, tu n'avais pas protégé un tel, il serait-tu sur le marché des échanges? »
Par hasard.
Vu qu'il n'a pas été réclamé, là.
Ouais.
Ça fait que ça, il va avoir plein d'affaires. Puis il y a le repêchage d'entrée normal qui s'en vient vendredi, samedi. Après ça, tes joueurs autonomes à la fin du mois. Non, ça va être un 2-3 semaines assez intenses dans la Ligue nationale. Ça va être le fun à voir. D'ailleurs, parlant d'échanges, de rumeurs, de transactions, il y a des rumeurs à Calgary qui disent que Matt Tkachuk et Sean Monahan pourraient être échangés par les Flames.
Pas mal le noyau de l'équipe.
Pas mal. Et ce qui est un peu étonnant, selon moi, c'est que Tkachuk, on dit que c'est les Blues de Saint-Louis qui seraient intéressés. Et Monahan, c'est les sénateurs d'Ottawa. Moi, j'aurais plus fait l'inverse.
Ben, envoyer Tkachuk avec son frère. Les frères Tkachuk, ça doit se casser ailleurs, ça, autour de bras.
Ouais,
c'est des énervés, ça, là.
Oui.
Ils doivent s'aimer d'un amour fraternel, mais ils doivent se détester d'un
avec le Canadien.
D'un amour fraternel aussi, tu sais.
Ça, ils tentent pas de venir avec le Canadien pour jouer souvent contre son frère, puis
je prendrais Brady avant Matthew, moi. Brady, il me semble qu'il y a de quoi de... Il y a une espèce de chien, là.
Oui, mais tant qu'à avoir ni l'un ni l'autre, là.
Ah ouais. Oui, c'est ça, dans mon cas, des deux.
<t'sais>. Mais ça ferait des flamèches, les deux ensemble, ça, c'est clair.
Mais c'est sûr.
C'est sûr, ça ne serait pas inintéressant à surveiller.
Il y aurait du monde au banc des pénalités, par exemple. Faudrait que tu aies un bon désavantage numérique.
Faudrait agrandir le banc. Il y a l'espoir des prédateurs de Nashville, Luke Prokop, qui avait été un choix de troisième ronde des Preds en 2020, qui a dévoilé hier sur son compte Twitter son homosexualité. Il devient le premier joueur sous contrat par une équipe de la Ligue nationale actif à révéler son homosexualité dans la Ligue nationale de hockey. Au mois de juin dernier, il y a un joueur de la NFL, Carl Nassib, qui est devenu le premier joueur actif de la NFL à faire de même. Et ce qui est un peu rassurant, c'est de voir les réactions à travers la Ligue nationale. Entre autres, Gary Bettman qui dit qu'il est fier, qui remerciait Prokop de partager sa vérité, d'être si courageux. Également, Bettman a promis que la Ligue fera tout son possible pour s'assurer que l'expérience de Luke soit accueillante et positive et va travailler pour assurer le soutien des joueurs qui suivront son chemin dans l'avenir. Les Prédateurs ont envoyé le même genre de message aussi. Bref, c'est toujours des pas en avant, oui, je suis d'accord, mais comme je le disais tantôt, c'est... Ça va être un plus grand pas en avant encore quand ce sera plus de manchette.
T'as raison. Maintenant, l'affaire, moi, que je souhaiterais, là, c'est que les autres joueurs homosexuels dans la Ligue nationale de hockey, parce que c'est pas vrai qu'il est le seul, là, ça serait bien étonnant.
Ça serait bien étonnant, effectivement.
Ça serait le fun qu'ils profitent de ça pour... Puis encore là, je le sais que c'est une démarche qui est très personnelle, là, tu sais, on s'entend.
Oh oui, c'est
je le sais que je suis un homme blanc hétérosexuel qui dit ça, mais imaginez-vous comment ça serait cool si... Les autres joueurs, s'ils se sentaient à l'aise de le faire, sortaient aussi du garde-robe en même temps. Pour éviter le fait que Prokop soit stigmatisé parce qu'on fasse comment, ben, c'est. Parce que le fait que ce soit le premier, moi, je trouve ça super hot.
Ouais.
Mais il s'en dit des vacheries sur une patinoire.
Oh, oui, ça, c'est clair.
Puis, tu sais, je veux dire, lui, il doit avoir la couenne assez épaisse puis se faire écœurer sur son orientation sexuelle, ça va arriver, là. Mais ça serait le fun que ce soit pas le seul. Puis que là, la Ligue soit pas pognée qu'un problème de gars morons ou de gars compétitifs, tu sais, dans le fond, qui essayent juste de rentrer en toute sa peau pour le sortir de son match. Pis, mais comme ils font tout, tu sais, t'as-tu vu les images de Pat Maroon puis Josh Anderson qui se crient des bêtises pendant la série finale?
Ah non.
À un moment donné, il y avait un micro qui pognait ce que Pat Maroon disait, puis tu sais, il l'écœurait. À un moment donné, il va voir Anderson, puis il dit « Hey, j'ai autant de buts que toi dans cette série-là, c'est gênant, t'es pas bon, tu sais. » Les gars, ça trash talk, ça s'écœure. Ça serait le fun si... Il y avait d'autres joueurs qui en profitaient pour dire, ben, moi aussi, comme ça. D'un coup, qu'il en aurait 5-6, là, ben, j'ai le sentiment que ce serait plus difficile de, justement, d'utiliser ça comme arme, entre guillemets, là, pour.
C'est ce que ça ferait aussi. Ça ferait en sorte que les 5-6 ou peu importe combien, plus il y en a, mieux c'est, pourraient dire, hey, ça fait 3, 5, 7 ans que je suis dans la ligue. Puis, c'est quoi le problème?
Ouais, c'est ça. Parce que Prokop, c'est un jeune.
Vous le saviez pas, là? Puis, je suis homosexuel. Ça fait 5, 6, 7 ans qu'on joue ensemble. Puis, ça a-tu été un problème?
Ouais, c'est ça. Parce que plus il va en avoir qui vont faire leur coming out, plus aussi il va y avoir des joueurs, comment dire. C'est plus facile d'écœurer un jeune de 19 ans qui n'est pas encore dans le show.
Hey, oui, c'est sûr.
Qu'écœurer un Shea Weber, mettons. Puis là, je donne l'exemple Shea Weber, ça peut être n'importe qui, mais les Shea Weber, Corey Perry, tu sais, les gars qui sont là depuis longtemps, puis qui sont des toughs, puis je sais pas quoi. C'est plus difficile d'aller écœurer Weber, puis commencer à niaiser sur sa femme, ses enfants, mettons, parce que tu veux vraiment le sortir de sa game, que le jeune qu'on connaît pas, qui est pas une vedette, tu sais. Fait que j'espère que c'est ça qui va arriver. Je sais pas, on verra bien. Puis ça demeure une nouvelle qui est extrêmement positive. Genre, moi, ça fait longtemps que je le dis, j'en revenais pas qu'il n'y en avait pas encore un dans la Ligue nationale. C'est-tu quand même capoté?
Mais en même temps, ça, t'sais, c'est pas un critère qui fait que tu vas faire la Ligue nationale ou pas. T'sais, puis ça devrait pas en être, évidemment. Mais
ben non, c'est sûr.
Fait que, tu sais, il y a personne qui est sorti pour dire, hey, je suis hétérosexuel.
Ouais, mais c'est ça. C'est étonnant à quel point les homosexuels étaient sous-représentés dans le sport professionnel en général, mais surtout dans la Ligue nationale de hockey. En 2021, là, le mariage de même genre, là, de même sexe, c'est-à-dire, là, ça a été autorisé quand, là, tu sais, je veux dire, ça fait des décennies, là. Puis malgré ça, là, dans le sport professionnel, là, c'est genre, non, nous autres, on n'a pas de ça.
Mais
il y avait quelque chose qui était un peu absurde là-dedans, là. me semble.
Ouais. Mais comme je te dis, oui, c'est positif, mais ça devrait pas être une nouvelle comme, tu sais, pourquoi la religion, c'est pas, tu sais, il y a personne qui est sorti pour dire, hey, moi, je suis juif puis je joue dans la Ligue nationale. Hey, moi, je suis musulman puis je joue dans la Ligue nationale. Hey, moi, je suis bouddhiste puis je joue dans la Ligue nationale. Puis,
ouais.
Ça devrait rien changer.
Ben, ça changera rien quand il va y en avoir. Tant qu'il n'y en a pas un qui l'a dit, pour moi, ça change quelque chose.
Mais c'est même pas un enjeu. Il n'y a personne qui dit, hey, on a hâte qu'il y en ait un qui avoue qui
ben, moi, j'avais hâte.
Non, mais je parle de la religion, là.
Ah, ben, t'sais, oui, t'as raison.
Quand est-ce qu'il va avouer qu'il est musulman? Mais non, pourquoi?
Ah ouais, ouais. Dites-le, quelqu'un!
Ça changerait quoi?
Oh, oui, t'as raison.
C'est pour ça que l'orientation sexuelle, pour. T'sais,
mais il y avait quand même. C'est parce qu'au niveau de l'orientation sexuelle. Puis c'est peut-être les sensibilités de chacun, mais je sentais qu'il y avait un enjeu. Je sentais qu'il y avait une réticence. Je sais pas pourquoi, mais j'avais comme l'impression que il y a des gars quelque part là, qui voulaient pas le dire pour une raison que je connais pas, qui leur appartient, mais il y avait comme un tabou encore dans la Ligue nationale sur l'orientation sexuelle. Dans ces religions, ouais, je sens pas ça.
Mais c'est parce que c'est du sport, puis c'est macho, puis c'est juste des gars, tu sais... Il y a personne qui est fonctionnaire puis qui sort du garde-robe parce que pour faire un pas en avant de c'est ouais, ça les, que je comprends
les,
pas.
Les fonctionnaires sont pas des personnalités publiques par exemple.
Oui, mais
pis... ben ça change quand même quelque chose. Puis encore là les fonctionnaires ils sont pas dans la Ligue nationale de hockey non plus. Le phénomène il était circonscrit à la Ligue nationale de hockey. Il n'y avait jamais eu en 100 ans d'existence de la Ligue ou moins que 100 ans, c'est pas vrai, ça a pas 100 ans mais il n'y avait jamais eu dans toutes ces décennies un joueur ouvertement homosexuel. C'est quand même... Il se passait même en 2021. Alors que aujourd'hui, moi, je suis le premier à dire que d'un sens, là, moi, je me dis qu'un jour, là, les orientations sexuelles, là, ça risque de même plus exister.
Mm.
Parce que c'est... Il y en a tellement à cette heure. Là, là les gens se revendiquent.
Ben
moi, je suis pas, mais... pas gay ou homo ou hétéro ou bi. Je suis pansexuel. Tu sais, OK, là, regarde, ça te regarde. Mais rendu là avec des pans, puis des cis, puis des two-spirit, des affaires de même, puis des queer. À un moment donné, là, c'est juste, regarde, tu veux coucher avec quelqu'un, mais si t'as son consentement, que ce soit il y a un homme, une femme, les deux, ou aucun des deux, là, couche avec, c'est tout, là, tu sais. Je te parle dans une couple de décennies, là. Mais malgré ça, on est en train d'avoir ces discussions-là. Il y avait jamais un gars dans la LNH qui avait dit « je suis homosexuel ».
Mais moi, je te dis « ouin, pis ».
Ben, tu peux pas dire ouin, pis c'est une première. C'est une première. Et le fait qu'il n'y en avait
mais
pas.
Mais en quoi c'est important? Pourquoi c'est important?
Parce qu'il y avait un tabou. Il y avait un tabou, malgré le fait qu'ailleurs dans la société, il y en a presque
mais
plus.
Mais quelqu'un qui se lance en politique, faut-tu qu'il sorte du placard s'il est homosexuel?
Ben, la première.
La
première femme première ministre au Québec, là, c'est Pauline Marois.
Oui.
On le sait. Parce que c'était la première. Il n'y avait jamais eu.
Ouais, mais c'est parce
dans 400
pas,
ans
pas
d'histoire.
Que c'était une femme, là.
Non, je le sais. Mais c'était une première en ce sens que, historiquement, là, on savait que c'était la première parce qu'en 400 ans, il n'y avait eu que des hommes.
Oui.
Donc, à travers l'histoire, les hommes étaient surreprésentés. Mais là, on se dit, ça va bien finir par arriver. Puis c'est arrivé, il y a eu une femme.
Ouais,
dans la Ligue nationale, dans toutes ces décennies, il y avait un déséquilibre entre la société normale et la Ligue nationale en ce sens que, dans la société, une certaine proportion de gens qui ont des orientations sexuelles qui sont pas hétéros. Puis dans la Ligue nationale, ils n'avaient pas. Ben, ça se peut pas, ils doivent bien avoir quelqu'un, mais pour une raison qu'on comprend pas, ils veulent pas le dire. Donc là, ben, on se demandait, OK, pourquoi ils veulent
mais
pas le dire?
Pas
de quoi ils ont peur? Y a-tu un tabou par rapport à ça? Ben, moi, je pense que tant qu'il n'y en a pas un qui l'a dit.
Mais ils ont pas à le dire.
Non, mais il y a personne qui est obligé. Mais la première personne qui le dit, on peut se dire, bon, ben, finalement, il y a peut-être une partie de ces tabous-là qui sont tombés parce que il y en a un qui l'a dit, qui avait pas peur de le dire. On présume que les autres avaient probablement peur de le dire parce qu'il persistait un tabou.
Ouais, mais tu sais, en politique, pourquoi il y a pas ça? Pourquoi c'est pas un tabou en politique? Pourquoi?
Ben, c'était probablement un tabou, mais qui est tombé avant la Ligue nationale de hockey. Ce qui confirme mon point que c'est pas normal en 2021 qu'il y avait encore aucun homosexuel.
Peu importe ton orientation, ça t'empêche pas de jouer au hockey, ça t'empêche pas de faire de la politique, ça t'empêche pas d'être avocat. Ça devrait pas être un enjeu.
Ben, c'est ça, mais le jour où ça sera pas un enjeu, c'est parce qu'il y aura des gens, justement, qui auront pas été gêné puis pas eu peur des répercussions de dire qu'ils sont homosexuels dans la Ligue nationale de hockey. Puis on s'en va vers là, tu sais, dans le fond, tu comprends, on regarde le même enjeu puis on le regarde de deux manières différentes, mais Moi, je souhaite que ça soit plus un enjeu aussi, là. Je suis d'accord avec toi.
Mais ça n'en est pas un, pour moi.
Ben oui, Vez, c'en était un. Il y avait des homosexuels dans la ligue depuis 50 ans, puis il n'y a jamais un qui avait osé le dire. Pourquoi?
Pourquoi avoir à oser le dire? Dans les médias, on est toutes des personnalités. Il n'y a personne qui est obligé de sortir.
J'ai pas dit que. Non, mais tu comprends pas ce que je dis. Il n'y a personne qui est obligé de dire qu'il est homosexuel. Mais c'est pas normal que dans une organisation qui est la Ligue nationale de hockey, avec toutes ces décennies d'histoire, il n'y ait jamais une personne qui a fait un coming out, qui a dit qu'il était homosexuel publiquement.
Ben, on s'entendra pas.
Dans toutes les autres sphères de la vie, il y a cette proportion-là qui existe, dans la Ligue nationale de hockey, dans la NFL.
Mais il
n'y
a pas de
coming
out, entre guillemets, obligatoire dans les autres sphères de la vie. C'est ça que je te dis.
On va
arrêter là.
On s'entendra pas, de toute façon.
On s'entend pas parce qu'on parle pas de la même chose.
C'est ça, OK.
Parlant d'Olympique.
Oui. Y en a-tu des gays aux Olympiques? Ça, c'est bon comme ça.
Mais parlant de sexualité aux Olympiques, ça a fait jaser. Les lits en carton aux Olympiques, c'est pas de condom distribué, c'est ça le problème.
Pas de condom.
Ils vont y donner à la fin.
Ils donnent à la fin, je comprends pas pourquoi, là. Mais bon. Mais bref, c'est pas là que j'allais.
Oui.
Ligue nationale d'hockey, on a élaboré un calendrier avec une pour la prochaine saison, parce qu'il y a des Jeux olympiques d'hiver, l'hiver prochain, là, au mois de février, il ne faut pas l'oublier non plus. Et la Ligue nationale, dans l'ébauche de son calendrier, a prévu une pause du 5 au 22 février prochain pour éventuellement, puis je dis bien éventuellement parce qu'il n'y a pas encore d'entente, pour envoyer des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin, donc au mois de février prochain. On sait que la Ligue nationale n'était pas aux Jeux de Pyeongchang en 2018, mais c'est ça, il reste à s'entendre sur quelques détails là, avec le comité olympique international pour que les joueurs de la Ligue nationale de hockey soient aux Olympiques à Pékin. Arrivons-y aux Jeux olympiques à Pékin. Sur le site de Radio-Canada ce matin, il y a le journaliste Philippe Leblanc qui est là-bas à Tokyo, qui raconte les mesures sanitaires qui sont imposées aux athlètes et membres de l'entourage, le personnel de soutien, entraîneur, etc. On dit qu'il y a une cinquantaine de cas de COVID déjà décelés parmi le personnel olympique et les athlètes à Tokyo. Il y a 11 000 athlètes qui seront présents. Et ils comprennent tout le monde que c'est pas des jeux comme les autres, évidemment. Il y a des caméras thermiques qui sont installées à l'entrée de tous les sites olympiques. Il y a des tests salivaires fréquents qui sont faits. Il y a une consignation quotidienne de l'état de santé. Il y a également l'interdiction de déplacement dans les lieux publics pour 14 jours. Donc, les visiteurs qui arrivent à Tokyo doivent être en isolement pendant 14 jours. Il y a une géolocalisation des déplacements. Bref, on prend vraiment pas de risque parce que, entre autres, encore hier, il y a plus de 1000 nouveaux cas qui ont été recensés à Tokyo. Et il y a les sondages là-bas qui disent que 4 Japonais sur 5 sont contre la tenue de jeux qui seront présentés pendant une pandémie, alors que le gouvernement demande à la population de s'isoler. C'est pas super bien vu. Puis,
moi, je vais être heureux de suivre les Jeux olympiques, mais... c'est clair qu'il y a une incohérence épouvantable. Je veux bien là que c'est un grand événement, les retombées économiques, mais tu sais, c'est absurde là, de tenir. Puis les athlètes aussi, on pense aux athlètes qui, eux autres, sont vraiment heureux pour aller compétitionner. Je comprends tout ça, là, mais si c'était au Canada, les Jeux olympiques, je t'annonce que je ferais partie des 4 sur 5. Là. Mm. Je ferais partie des 4 sur 5 qui trouvent que ça n'a pas de sens.
Ah ouais, oui. Et la compagnie Toyota, fabricant automobile, qui est un des principaux commanditaires des Jeux olympiques de Tokyo, a décidé de ne pas diffuser de publicité reliée aux Jeux sur les chaînes nationales japonaises.
Ouais.
Parce que le sujet est devenu trop controversé, justement à cause des sondages qui disent ce dont on vient de parler, là, 4 sur 5 qui sont contre la tenue des Jeux. Alors, Toyota veut pas prendre le risque de mettre le doigt dans une controverse. Ils ont signé, Toyota, il y a en 2015, un contrat de 8 ans évalué à près d'un milliard de dollars pour être partenaire officiel des Jeux de Tokyo.
Un milliard?
Ouais.
Tabouin. On devrait écrire Toyota sur le troisième lien, hein? Ça serait pas pire. Ça.
Le troisième lien Toyota?
Ouais, on fait payer.
Ben oui, on pourrait.
Le milliard, il pourrait nous le laisser en échange de ça?
Oui, laissez-nous-les, nous autres. On va l'organiser.
Moi, j'ai toujours dit, on devrait vendre les noms de villes.
Ouais, on n'aura pas ce débat-là tout de suite. Plus tard, parce que là, on va être dans Mars.
Beaucoup plus tard.
Beaucoup!
On l'a déjà eu,
samedi, on aura ce débat-là.
Oui, c'est ça. Samedi soir vers 11h. Ouais. Les Blue Jays ont perdu 13-4 contre Boston. Recul à 7 parties de la tête dans le classement dans l'Est. L'avenir des Ace à Oakland pourrait se jouer aujourd'hui parce qu'il y a un vote auprès des membres du conseil de ville à Oakland sur un projet de développement de 12 milliards de dollars qui inclut notamment un nouveau stade pour les A's. Si ça ne fonctionne pas, le commissaire du baseball a parlé avant le match des étoiles de la possibilité la plus plausible de déménager éventuellement l'équipe à Las Vegas. Mais on parle encore de Montréal, encore pour Portland, Nashville, Vancouver qui sont dans le portrait. Mais ça, c'est si les A's éventuellement déménagent. Leur contrat, leur bail avec le Coliseum, le Ring Central Coliseum expire après la saison 2024. Alors, on verra bien. Puis c'est le match numéro 6 de la finale de NBA ce soir. Les Suns de Phoenix sont à Milwaukee contre les Bucks. Les Bucks ont gagné les 3 derniers matchs. Ils avaient perdu les 2 premiers.
C'est rendu 3-2 pour les Bucks?
Ben oui, toi. Donc, ce soir, 21h. Et les Bucks n'ont pas gagné de championnat de la NBA depuis 1971. On attend 17 000 personnes à l'intérieur du l'aréna à Milwaukee. Mais on attend aussi 65 000 partisans d'or dans une place un parc public, là. Il va y avoir beaucoup de monde.
Est-ce que Giannis va réussir à rapporter un championnat à la ville de Milwaukee? Giannis Antetokounmpo.
Lui, là?
Oui, exactement. 7h, presque 8 minutes, bougez pas. Au retour, les nouvelles.
Bon ben, on est brûlés raides. On va se reposer quelques minutes. Du bon le matin. De retour après la pause.